Salut, c'est MDJC de Bagropoint et vous écoutez Riversal. Il y a un peu plus d'un an, on vous proposait une émission spéciale autour du sujet qui était « Comment la gente féminine vit son évolution dans la communauté des jeux de combat ?». Nous avons eu énormément de retours autour de ce podcast, beaucoup de remarques, des questions, et nous allons aujourd'hui essayer, dans ce droit de réponse, d'y apporter un éclairage différent, peut-être un petit peu plus poussé, avec une série de personnes, j'ai presque envie de dire une série de portraits, que nous vous proposons ici. La première personne à s'exprimer ici, ce sera Fleur. Fleur, vous l'avez déjà entendue dans le premier Parole de joueur. Elle a une place, je trouve, très intéressante puisqu'elle est à la fois joueuse, elle est à la fois dans le milieu du développement et évidemment, elle a son point de vue en tant que femme. La deuxième personne qui s'exprimera ici sera Vermine de l'association Signed by Air qui, lui, nous donne un éclairage directement masculin lié au milieu du jeu de combat. La troisième personne qui interviendra est Yumi de la SWGA. Viendra ensuite notre amie Bulbeuse, viendra ensuite la joueuse Aldol, nous aurons ensuite une longue intervention de notre ami et partenaire Mehdi du site Je Game Moi Non Plus, et pour finir nous aurons un témoignage un peu particulier d'une personne qui a pour de multiples raisons souhaité garder l'anonymat et qui nous partagera son point de vue dans l'univers très masculin du monde du jeu de combat.
Bonjour, je suis Fleur, je me présente régulièrement en disant que je suis triclassée. Geekette, gameuse, chef d'entreprise. Gameuse depuis mes 6 ans à peu près, date à laquelle j'ai eu ma première console. Et doublement gameuse puisque aussi professionnelle du jeu vidéo.
Qu'est-ce que tu penses de la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo alors en tant que joueuse et du coup de l'autre côté en tant que chef d'entreprise ?
Alors en tant que joueuse en fait il y a déjà deux aspects à considérer. C'est la place des joueuses au sein de la communauté des gamers et la place de la femme dans le jeu vidéo. Ce sont déjà deux choses différentes. J'ai envie de dire que la place des joueuses dans les communautés du jeu vidéo est très différente selon les communautés dont on parle. Moi, j'ai l'expérience de deux communautés très différentes. La première étant celle du FPS et plus particulièrement de Counter-Strike et l'autre étant celle de WoW. Donc dans la première, moi j'ai vécu, alors même si c'était il y a 10 ans, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup évolué, j'ai vécu un univers extrêmement machiste, un univers où se faire battre par une femme est juste insupportable, où ça n'était un tel point qu'en fait on m'accusait, entre guillemets, sur des parties en ligne, de ne pas être une fille, d'être juste un adolescent qui n'avait pas mué. Parce que c'était moins humiliant de se faire battre par un pré-ado que de se faire battre par une nana. J'ai aussi vécu des sessions en LAN où les équipes masculines qu'on affrontait à l'époque où j'étais dans une équipe féminine refusaient par exemple de venir nous serrer la main avant les matchs. Et où globalement une joueuse n'était pas évaluée par rapport à son skill mais par rapport à son bonnet de soutien-gorge et à la taille de ses fesses. En gros. J'ai vécu quelque chose de très très différent dans la communauté WoW. C'est probablement lié à la moyenne d'âge des joueurs mais moi en l'occurrence j'ai fait partie d'une guilde en HL dans WoW avec des joueurs vraiment hardcore, une guilde qui a fait des first kill serveurs, etc. Et où être une nana, pas être une nana, l'important c'est t'as ta place, tu fais ce qu'on attend de toi que tu fasses, tu t'arrives en raid préparé et que tu sois une fille, un garçon, whatever, ça n'a pas d'importance. Et si tu joues bien, t'auras ta place dans les raids, t'auras les loots au même titre que tout le monde. Alors oui, je sais que hors guild, il y a pas mal de nanas qui jouent du fait qu'elles sont des filles pour obtenir des cadeaux, des faveurs, etc. En même temps, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. On se fait assez souvent rabaisser, entre guillemets, parce qu'on est des filles qui jouent. Pourquoi ne pas en profiter ? Voilà, donc ça, c'est mes deux expériences personnelles. Donc, qui sont, comme je disais, très différentes. Donc dans le monde professionnel du jeu vidéo, donc en tant que donc moi je suis producer, donc mon rôle c'est de manager des équipes de superviser des équipes qui produisent du jeu vidéo, de donner le cap à un jeu et de m'assurer que tout le monde fait son boulot et le fait correctement. J'ai envie de dire que j'ai connu un sexisme clair, mais qui n'est pas différent du sexisme qu'on retrouve dans d'autres industries un peu similaires, comme le web, hein, qui est un autre milieu que je connais bien. Ce que je reproche à l'industrie du jeu vidéo, c'est plus qu'elle est incapable de créer des personnages féminins forts. Je ne sais pas si c'est une question de sexisme ou si c'est par peur de casser des stéréotypes, par peur que du coup les joueurs ne s'y reconnaissent pas. Mais pour moi, le rôle de l'industrie serait justement de faire réfléchir sur les rôles, de faire évoluer les mentalités et donc de proposer des personnages féminins différents.
Tu penses que la nouvelle génération du coup d'éditeurs, de développeurs va pouvoir amener ce sang neuf qui, à mon sens, est nécessaire pour l'évolution justement de la communauté ?
Je suis assez pessimiste en fait là-dessus. Il y a deux choses. Il y a de grandes initiatives qui sont prises actuellement au sein de l'industrie du jeu vidéo pour donner plus de place aux femmes, notamment le grand scandale entre guillemets One Reason Why, qui est donc ce qui s'est passé sur Twitter où les femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, principalement aux États-Unis, se sont mises à dénoncer toutes les dérives sexistes dont elles étaient victimes. Donc il y a plus de place qui va être donnée aux femmes, je pense, dans le futur dans cette industrie. Donc on pourrait se dire que s'il y a plus de nanas aux manettes, on va avoir des jeux moins sexistes, en l'occurrence. Mais moi, j'ai pas beaucoup. En fait, je suis assez pessimiste là-dessus. Je pense que les femmes elles-mêmes, toutes seules comme des grandes, sans que personne les pousse, entretiennent les stéréotypes. Parce qu'encore une fois, oui, c'est confortable, parce que c'est prendre moins de risques, parce que, Bayonetta, c'est un jeu génialissime, mais si Bayonetta, elle n'était pas gaulée comme elle est et habillée comme elle est, est-ce que le personnage serait aussi plaisant aux yeux des joueurs ? Dans Bioshock Infinite, le personnage d'Elisabeth est hyper central. Elle a une vraie personnalité, elle joue un vrai rôle d'accompagnement auprès des joueurs, etc. Mais elle est quand même sanglée dans un corset victorien avec les nichons qui débordent, quoi. Et pourtant, voilà, Ken Levine, qui fait Bioshock, ça serait probablement la dernière personne que j'aurais envie de taxer de sexisme. Mais s'il y a bien des choses qui, à mon avis, sont dures pour l'industrie, des stéréotypes qui sont durs à casser, c'est cela. C'est un personnage féminin pas sexy, c'est vachement plus dur à faire passer pour le public.
Ce qui devient compliqué, et là où peut-être le serpent se mord la queue, c'est que les personnages féminins de jeux vidéo deviennent des exemples pour la nouvelle génération. T'as beaucoup de cosplay autour justement de personnages qui sont complètement dénudés, donc la jeune génération est baignée dans une image qui est complètement stéréotypée. Est-ce qu'on pourrait pas donner un petit coup dans la fourmilière justement ? Tu parlais tout à l'heure de développer un jeu qui sortirait des sentiers battus. Est-ce que c'est pas aux éditeurs peut-être de prendre le risque de faire un jeu un petit peu atypique là-dessus, qui serait du coup un argument commercial?
Moi tout de suite, en fait, je pense à Portal, hein. L'héroïne de Portal, c'est donc une héroïne et qui pour le coup n'est pas exactement hyper sexy dans la façon dont elle est habillée, sauf qu'en fait on la voit pas, donc c'est à la fois, oui, ça casse le code, mais c'est pas beaucoup de prise de risque. Oui, tout est dans les mains des éditeurs, hein. Forcément. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un analyste qui ait les couilles de leur montrer des chiffres et des statistiques disant que oui, il y a un public de joueurs de jeux vidéo qui est prêt à s'attacher à une héroïne qui soit ni une putain ni une maman, quoi. Tant qu'il n'y aura pas des gens prêts à parier beaucoup d'argent sur cette question-là, je le vois pas arriver.
Moi, c'est Vermine. Pour ceux qui me connaissent, m'auront connu. Pour les autres, je suis personne, c'est-à-dire comme vous. Je participe un peu à la scène depuis quelques années. Alors, d'après ce que me dit TMDJC, pour le moment, dans ce qu'il a reçu comme réaction, comme point de vue, il semblerait qu'il y ait grosso modo deux parties. C'est qu'en gros, il y en a qui disent il y a les gros machistes de base, et de l'autre, les chevaliers blancs qui défendent la veuve et l'orphelin et qui veulent se faire bien voir. Je trouve que l'un comme l'autre est stupide. Il faut reconnaître que les mecs, dans ce genre d'univers, il y a de la misogynie parce qu'on fait du versus fighting, on est des grandes gueules et on veut se montrer viril tel que la société demande que l'on soit. Mais d'un autre côté, quand il y a des nanas, eh ben, elles sont les bienvenues. Ça fait plaisir d'avoir autre chose que des paires de couilles dans des chambres d'hôtel qui puent et d'avoir un peu de féminité avec lesquelles on peut échanger sur d'autres choses que simplement le rapport de séduction ou de domination. Voilà. En fait, à la base, le sujet, je le trouvais bête. Je pensais que les mœurs avaient un peu évolué. Quand tu me racontes ça, ça me fait un peu mal au cul. Je me demandais même pourquoi on devait faire un sujet là-dessus. Voilà.
Alors, mon pseudonyme, c'est Yumi. Alors, ça reste un peu compliqué. Après, voilà, évidemment, dans le milieu des RPG, des MMO, ça commence à se démocratiser, ça devient plus... Enfin, ça devient normal. Maintenant, voilà, les meufs, les nanas rôlistes qui se mettent au RPG ou des choses comme ça, moi, j'en connais un paquet et c'est devenu normal, hein, ça choque plus personne. Alors que dans le milieu du jeu de baston, je sais pas, je pense que, t'as Kayane... T'as Mizu, allez les filles de Ren, genre Michi, tu as la nana de Luffy qui est connue parce que du coup on la voit tout le temps avec les Watch Damage, ça fait peu quand même, hein, c'est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan du jeu de baston. Je pense que c'est aussi parce que on va pas non plus forcer les filles à aimer le jeu de baston, hein. Si elles aiment pas, elles aiment pas et puis c'est tout. Moi je joue pas, mais ça veut pas dire que j'ai pas envie de jouer, mais j'apprécie la chose, donc je reste, on va dire, voilà. Et je suis une des rares, on va dire, à faire partie d'une association aussi. On n'est pas stigmatisé, mais on n'est pas non plus spécialement... Enfin, je veux dire, ça va, on n'est pas des extraterrestres, on demande pas à ce qu'on nous déroule un tapis rouge pour dire « Bienvenue dans le monde du jeu de baston !» il est vrai que une fille dans le jeu de baston, ça attire les regards des mecs parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc forcément, mais au bout d'un moment, ça va. Enfin, je veux dire, on n'est pas des bêtes de foire, ils finissent par s'y faire. Après, dès qu'il y a une nouvelle fille qui arrive, bah forcément, on parle d'elle parce que il y en a tellement peu que voilà, il faut bien qu'on découvre un peu le nouveau sujet, puisque les autres maintenant, on les connaît, on s'en fiche. Mais j'ai jamais eu de problème avec les garçons, je rigole très bien avec tout le monde, je me sens pas spécialement mise à part ou quoi que ce soit. Évidemment il y a des idiots, mais il y en a partout des idiots, hein. Je veux dire que c'est pas que dans le jeu vidéo, hein, c'est partout. Voilà, la place de la femme a toujours été un peu... il a toujours fallu batailler pour n'importe quel petit bout de liberté, mais aujourd'hui, ça va, on s'en sort pas trop mal, je trouve. Hein.
Alors, je m'appelle Camille, aka Bulbeuse sur les internets, et je joue depuis maintenant un an et demi, deux ans, à Street Cat exclusivement. C'est Pipo Mantis qui m'a tout simplement foutu un stick entre les mains un jour, et l'objet m'a toujours énormément attiré. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à évoluer dans la communauté par le biais d'amis, de connaissances, grâce à Internet aussi, beaucoup pas mal. Notamment pour rencontrer des nanas qui jouent, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est relativement masculin.
Comment tu trouves du coup la communauté masculine dans le jeu de combat, de ta propre fenêtre ?
Ah, de ma propre fenêtre, mais moi j'ai énormément de chance dans le sens où je suis dans une espèce de petit cocon bien familier et que la plupart des gens avec qui j'évolue dans le milieu sont quand même des gens très proches et plutôt militants au niveau de la sphère féministe, de ce côté-là, qui ont très régulièrement fait de gros efforts et un travail sur eux-mêmes pour essayer de comprendre, à juste titre, quels étaient un peu les enjeux, au final, de la place de la femme au sein de la communauté du jeu de baston. Et non, je souffre absolument pas. Pour l'instant, j'en ai souffert, hein, quand j'ai essayé d'aller voir un peu ailleurs et d'évoluer dans mon coin. Mais sinon, depuis peu là, j'ai découvert une salle d'arcade aussi à Bruxelles. Et ça, c'est que des darons un peu qui jouent entre potes et tout comme ça, qui ont été un peu choqués de voir une nana débarquer et qui au final se sont complètement pris au jeu et j'ai passé un super moment quoi. Je pense que la première réaction c'est genre quoi, mais c'est quoi cette nana qui débarque, elle va nous faire chier, elle va se coter des bornes, grand classique de sexisme ordinaire. Et puis au final, quand tu vois que je tâte un petit peu, que je connais, que je comprends, ne serait-ce que le vocabulaire du jeu, les trucs du style, c'est vrai que ça a tendance à se passer quand même vachement mieux. Mais c'est vrai que depuis un temps, j'ai pas eu à souffrir spécialement de ça. Maintenant, il faut prendre conscience que je suis une privilégiée et que ça existe énormément.
Donc en fait, tu sous-entends quand même qu'on demande à la gente féminine de connaître un minimum les termes, les match-up ou ce genre de choses, en fait, pour paraître crédible, alors que c'est pas ce qu'on demanderait à un mec.
Ah, exactement. Non, si t'es une nana, t'as soit intérêt à savoir manier ton truc et à gérer. C'est aussi pour ça, mine de rien, je pense qu'inconsciemment, je m'entraîne énormément et que j'ai envie d'aller plus loin dans le jeu. C'est pour éviter de me faire, de me confronter à des situations qui seraient désobligeantes aussi pour moi. Parce que c'est vrai que la nana, c'est la noob, la nana, c'est... Enfin, tu vois, t'as toujours ces espèces de trucs, ces espèces d'étiquettes qu'on a tendance à coller immédiatement à une nana qui a une manette ou un stick dans les mains. Maintenant, je te dis, une fois de plus, au bout de 10 minutes de jeu à peine, en général, on arrête de me faire chier. Mais c'est vrai que t'as ce truc-là qui est un peu gênant. La nana, de toute façon, elle est soit considérée comme une grosse noob, oh là là, elle est mignonne, elle est sympa, elle essaye, mais elle sait pas jouer. Ou alors, elle est complètement admirée par son jeu, genre Kayane qui a réussi à s'en sortir. Mais je pense qu'il en souffre énormément aussi, mine de rien. Mmh. Je la connais pas très bien, mais mine de rien, les gonzesses que j'ai trouvées dans le milieu du jeu de baston, c'est quand même des filles qui en ont dans le pantalon, quoi. J'ai
jamais été, on a l'impression que c'est un peu obligatoire.
Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas si tu connais Aldol, ou des trucs comme ça. C'est pas des nanettes qui ont leur langue dans la poche, quoi.
Alors justement, les gens qui ont la chance de te suivre sur Twitter ont pu remarquer qu'effectivement, tu n'avais pas ta langue dans ta poche. Il y a certains termes que tu vas employer qui trouvent parfois naturellement leur place dans la bouche de garçon. Est-ce que toi, tu as l'impression en fait que qu'on t'en fait la remarque, parce que j'ai déjà vu parfois des messages passés qui étaient, enfin que je sais que je n'aurais pas lu si c'était un mec qui les avait écrits. Est-ce que toi, il y a des moments où tu as l'impression justement qu'on fait cette différence?
Alors c'est marrant parce que j'ai participé avec Solange Te Parle qui avait fait un truc dans Pénètre ton intimité, je sais pas si ça dit quelque chose.
Oui,
voilà, donc j'avais participé à ça, elle m'avait posé exactement la même question et c'est vrai qu'il y a cette espèce de ce qu'on appelle un mansplaining où c'est non, tu te dois d'être ladylike, tu te dois d'être douce, effacée, réservée, plaisante. Et c'est vrai que c'est en dehors de la communauté du jeu de baston, c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins posé problème avec qui que ce soit. Donc c'est quelque chose qui dépasse complètement l'idée du jeu vidéo, quoi. Si tu veux. Mmh. Au début, j'ai eu, au début de la création de mon incroyable personnalité, pimentée et vive, je me suis posé la question de savoir si c'était quelque chose qui me correspondait vraiment. Est-ce que c'est une entité que j'ai pris pour me protéger parce que je suis une putain de sensible complètement pathologique, mais finalement, c'est vraiment moi, c'est simplement... ça fait vraiment partie de mon truc. Évidemment, enfin, si j'ai eu une emmerde un jour sur un forum, parce que c'est genre, mais c'est quoi cette nana qui parle de cul constamment, espèce de gros fake, allumeuse, traînée, machin, j'ai eu des menaces de viol aussi, enfin bon, longue histoire sur laquelle je ne reviendrai pas. Mmh. Mais non, sincèrement, c'est pas quelque chose... avec lequel j'ai du mal à vivre non plus parce que j'en suis consciente déjà et parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai complètement appris à vivre aussi d'une certaine manière, si tu veux.
Qu'est-ce qui manque du coup à la gente masculine pour passer le pas justement, pour accepter parfaitement nos collègues féminines sans qu'il y ait de questions à se poser?
Bah, écoute, ça c'est quand même la question principale du truc parce qu'il y a un travail tellement énorme et qui est un travail d'amont avant tout. Parce que c'est tellement, tellement ancré au final dans notre éducation. Moi, la première, hein, j'ai quand même eu du mal à me foutre un peu en tête que tout ce qui était stéréotype de gonzesse, slut-shaming, des trucs comme ça, tu vois, ne serait-ce qu'un truc à la con. Le fait de se foutre à poil sur Internet ou des trucs du style, c'est quelque chose... Enfin, moi, j'ai un gros souci avec la pudeur déjà de base, hein, que ça soit masculine ou féminine.
Ou féminine.
Ouais, c'est un truc global. Mais... je pense que c'est un véritable travail d'amont, tu vois, c'est un travail sur l'éducation. Il faut se repenser aussi, il faut se repenser, se replacer, il faut déjà accepter les privilèges qu'on a aussi, parce que mine de rien, se battre contre et dire non, je suis une opprimée quoi qu'il arrive, ou je suis un opprimé en l'occurrence, c'est difficile aussi d'accepter de voir qu'on a plus de chance que les autres.
Oui.
Et c'est vrai que quand tu dis à un mec, écoute, tu as plus de chance qu'un autre, alors que le type, j'en sais rien, il va se focaliser sur ses problèmes et ne pas essayer de chercher le fond de la chose, ouais, ça pose énormément de problèmes. Après, je sais pas, c'est tous ces stéréotypes qui sont véhiculés par l'image de la femme, que ce soit dans le jeu vidéo, ou, enfin, tu vois, je pense que ça va plus loin encore que le milieu du jeu vidéo, ces trucs-là.
Donc moi, c'est Elise, sous le pseudo Aldol. Je joue à Street Fighter 4 uniquement.
Ça fait longtemps que tu fais de la compétition ?
Bah, j'ai commencé le jeu il y a à peu près 3 ans maintenant. J'ai commencé la compétition très rapidement, en fait, même quand j'avais pas le niveau, quoi. Je me suis dit, allez, je me lance et on verra bien ce qui se passe. Au final, je fais toujours pas de résultats, mais je fais de mon mieux. C'est beaucoup de stress, en fait, surtout.
Comment ça se passe, du coup, tes rapports avec les hommes dès que tu es en compétition ? Est-ce que tu sens une différence ou est-ce que pour toi, tu es une joueuse comme les autres, enfin comme n'importe quel autre joueur et donc la question ne se pose pas ?
Alors, ça dépend quel joueur. Vu que je les connais pratiquement tous, ceux de la communauté qui fréquentent les tournois, il n'y a pas de problème pour moi. Et puis, oui, j'ai eu certains problèmes, mais en général, avec les gens que je connais pas du tout, quoi. Non, c'est des potes.
D'accord, donc la plupart des gens sont des potes. Alors, quel type de problème, du coup, tu as rencontré avec les gens que tu ne connaissais pas ?
Un petit exemple, un mec que j'ai battu en ranking, c'était chez un ami qui s'est complètement énervé contre moi et qui m'a proposé qu'on aille se taper dehors, quoi. J'ai pas bien compris pourquoi.
Oui, donc l'ego avait morflé là.
Oui, un petit peu, je pense.
Mais donc dans l'ensemble, au niveau des compétitions, en tout cas, ça se passe bien.
Oui, ça se passe bien. Enfin, moi, j'ai l'impression. Après, je ne sais pas ce qui se passe au loin et à quelques mètres de moi, quoi. Mais je pense que ça se passe bien. En tout cas, pour moi, oui. Je suis peut-être un petit peu naïve, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on parle souvent de la situation de la femme, surtout dans le jeu vidéo et dans les jeux de combat. Mais au final, oui, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis comme n'importe quel joueur. Je reçois des messages un peu bizarres comme n'importe quel joueur. Mais au final, non, je n'ai pas l'impression d'être... peut-être plus maltraité que ça, quoi, non ?
Bonjour, Mehdi du podcast Je Game Moi Non Plus. Je souhaitais intervenir à la suite du Reversal, évolution de la jante féminine dans la communauté des jeux de combat, et essayer d'ajouter à ma modeste niveau quelques petits prolongements à la discussion.
Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion, du coup, de participer à de la compétition où il y avait des femmes comme des hommes ?
Ça a été le cas, mais comme ça a daté pour moi d'il y a pas mal d'années, elles étaient, j'avouerais, très peu représentées, pour ne pas dire absentes, malheureusement, si ce n'est les classiques témoignages d'hommes ou de femmes qui nous expliquent que ce sont des accompagnantes amies ou compagnes, justement, des joueurs compétiteurs.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, de manière vidéoludique, tu ressens les représentations graphiques, justement, de la jante féminine ?
Il y a une parité dans le dysfonctionnement. Bon, je fais volontairement provoque, au sens où hommes comme femmes sont plutôt mal servis, hein, les uns comme les autres, ça il faut pas se leurrer. On va rester quand même sur le sujet qui nous intéresse. Dans le jeu de combat, en l'occurrence, les femmes sont rarement étoffées. Enfin, il y a rarement une conjonction, je dirais, entre le chara-design et le background historique qu'il peut y avoir dans une série. Quelques rares exceptions, il n'y a pas besoin nécessairement d'un personnage un peu trop clinquant. Me vient à l'esprit, en fan de King of Fighters, Vanessa par exemple, qui est assez étoffée, si je dis pas de bêtises, j'espère que les fans de King of Fighters me pardonneront, qui est une femme divorcée dont le mari serait décédé ou je ne sais plus, et qui du coup est courtisée dans la même équipe par Ramon, donc qui est le catcheur de service, et qui a justement ce côté très très caricatural, hein, du Latin lover. Mais en ça, ce qui est intéressant, justement, je pensais pas en dire autant sur ce personnage, ils sont complémentaires, et là je trouve que c'est un bon exemple pour une fois de représentation et de complémentarité, parce que elle ne cède pas à ses avances. sont souvent d'ailleurs beaucoup tournés à la dérision. On renverra par exemple à la fin de King of Fighters 2002 où chacun de ces assauts avec ses roses et ses déclarations d'amour sont faites d'animations de combat très 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 humoristiques comme la plupart de la fin de King of Fighters 2002. Et il me semble à la fin de King of Fighters 2000, elle a encore, je dirais, une épaisseur supplémentaire. Là aussi, je mets d'énormes guillemets, au sens où on n'est pas dans le... Elle n'est pas, elle ne perd en rien d'une certaine vision de sa féminité, telle qu'on pourrait l'entendre de manière globale, mais ça, ce sera encore un autre débat. Elle garde sa posture de femme combattante, je dirais pas de femme forte, qui pour moi est un petit peu trop un cliché, sachant que c'est elle qui transporte justement Ramon sur son dos à la fin des derniers combats, et non pas l'inverse. Ce qui est quand même assez rare dans les jeux vidéo. Voilà. Pour un exemple, après, comme je disais en début, les hommes malheureusement sont assez mal servis dans le jeu vidéo en règle générale, hein, les classiques hégémoniques Kratos, tout de torse huilé et tout musclé qu'ils sont à l'extrême, stéroïdés, et bon voilà, sans peu de nuances, hein, on peut tout à fait être bodybuildé et être intelligent. Je crois même que l'instant trivia, il y avait je crois un des plus grands bodybuilders au monde qui avait un QI qui était au-dessus de la moyenne. Bref, ça c'est pour la culture générale, mais toujours est-il que les uns comme les autres sont assez mal représentés, et à la différence peut-être que les femmes sont prises dans un système de production qu'est l'industrie du jeu vidéo, qui est lui très très essentiellement masculin. C'est la grosse nuance.
Ah, tu parlais de Vanessa qui fait encore partie des personnages de jeux de combat qui sont quand même relativement habillés.
Oui.
Il y a effectivement beaucoup de personnages masculins comme féminins qui le sont beaucoup moins. Est-ce que tu penses que les designers, voire les producteurs, sont enfermés dans ce qu'ils pensent être plus vendeur?
On peut se demander. Hein, une espèce, je crois que ça avait sûrement tourné sur Bagropoint à l'époque, une espèce de carnet de croquis qui représente les différences de taille du chara-design. Oui. Et il y en avait un sur les personnages justement de Soul Calibur qui sont entre autres assez réputés pour être personnages féminins particulièrement dotés physiquement. Il y avait effectivement une évolution plus ou moins de la poitrine et un différentiel des poitrines de différents personnages qui allaient de Talim, cette jeune guerrière, je suis pas très fan de Soul Calibur, mais donc voilà, et jusqu'à Ivy qui avait voilà une poitrine digne des films de Ruth Meyer. Donc là, pour essayer de recentrer et de répondre à ta question, oui, il y a le fameux, on peut l'appeler comme on veut, le eye candy, l'opération séduction qui marche aussi bien au cinéma, dans les séries télé ou dans la vente de lessive par publicité. Mettre malheureusement une femme à grosse poitrine au premier plan et même en ne cadrant même plus sa tête et une lessive à côté, bah il y a des chances que chez une bonne partie d'hommes lambda ça puisse être vendeur. Après, on a eu aussi les déclarations, je sors un peu du jeu de combat, mais récemment du RPG Final Fantasy XIII-2 où les créatifs s'amusaient du fait, suite à une des questions d'un journaliste, d'avoir augmenté le bonnet de Lightning comme étant une des features, enfin un des ajouts les plus significatifs de ce nouveau jeu.
Oui.
Et c'est là où la différence est vraiment assez triste, c'est-à-dire que ça concourt, c'est-à-dire que moi quand j'ai lu cette interview, c'est pas tant cette histoire de finalement de doter le personnage féminin de plus de poitrine, quoique c'est tout à fait contestable ce qu'on veut, mais c'est que j'étais mal à l'aise en la lisant, c'est-à-dire qu'il y avait, j'avais l'impression de lire une interview scabreuse entre deux piliers de comptoir, je vais un peu caricature, et qui lui dit bah dis donc, t'as vu Simone de son retour de voyage, elle est revenue plus pourvue que l'an dernier, quoi. Enfin, voilà, j'étais dans une espèce de situation de mal-être alimentée autant par les journalistes que par les créatifs eux-mêmes qui répondaient à ça. Ah oui, tiens, ça vous a marqué. Donc finalement, ça veut dire qu'on a visé juste. Et puis on se retrouve dans ce monde phallocentré et entre mecs qui n'est pas malheureusement pas du tout représentatif, mais qui est un Et c'est ça le grand dommage, un discours, ce qu'on appelle dominant. Et forcément, comme c'est lui qui est relayé, qui a le plus de vues, ben voilà.
Alors, j'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, d'échanger avec elle se désigne comme ça elle-même, des féministes pures et dures autour de la série Bref, où elles exprimaient que Bref était vraiment une série misogyne. Ce que moi, je ne ressens pas, en fait. Alors, d'ailleurs, pour remettre les choses dans le contexte, elle parlait de sexisme et pas de misogynie, parce que je n'aurais pas trahir leur parole. Ce que moi, je ne ressens pas. Et à l'inverse, on a eu des retours, notamment sur le premier Universal, où les mecs nous disaient qu'on parlait d'un sujet qui n'avait strictement aucun intérêt, qu'il n'y avait pas de sexisme dans notre communauté, donc le sujet n'avait aucune valeur. Et entre ces deux extrêmes, du coup, qui est que d'un côté, on a l'impression que quels que soient les mots qu'on va employer, tout devient sexiste, et ça devient difficile d'en placer une. Et là, évidemment, on est en 2014, on est dans une conjoncture où si on a un mauvais mot sur la communauté juive ou musulmane, ou etc., on va être tout de suite automatiquement être taxé d'antisémitisme ou de racisme. On a un petit peu l'impression que tout ce qui est autour de l'homosexualité ou de la gente féminine peut éventuellement également poser problème. Et de l'autre côté, c'est comme si, en fait, y avait la théorie de l'autruche qui, bien qu'elle porte mal son nom, est ce qu'elle est. Donc, c'est comme si on se mettait la tête dans un trou en disant non, ça n'existe pas, et arrêtez de nous casser les uns avec, ça devient embêtant. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on puisse apporter à ce discours aujourd'hui qui permettrait de détendre cette atmosphère ?
La détente, je sais pas. Moi, je suis pas trop pour détendre l'atmosphère. Au contraire, je pense même qu'il faudrait. La plupart des gens, quand on commence à parler de ce sujet-là, parlent que l'atmosphère est en train de devenir tendue. On a vu les effets de la fameuse prise de parole de Marlar sur la place du net public, enfin qui est une place publique de toute façon en soi. Mais donc c'est complètement aberrant, la disproportion du propos. Pour revenir à ce que tu étais en train d'essayer d'amener, de poser comme question, oui, c'est-à-dire que c'est normal, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de réalité à l'heure actuelle. Ne parlons pas d'un problème qui n'existe pas. Évidemment, il n'existe pas parce que il est pris dans ce discours dominant qui est une représentation, je vais utiliser des gros mots, qui n'aura pas besoin de biper, qui est hétéronormée, qui est masculine, qui est blanche, qui est cette réalité là moi je renvoie j'aime beaucoup renvoyer lorsque je fais des références, je renvoie vraiment à un article de Marion Coville que certains gamers connaissent peut-être sous son pseudo Moussi, qui a écrit notamment sur certaines représentations de la féminité, des questions du genre, et notamment sur le personnage de Bayonetta, dans un truc très justement entre deux, hein, là où Bayonetta est soit cette femme forte, fatale à tout prix, cette pute. Il faut utiliser les mots tels qu'ils viennent aussi dans les commentaires de sites ou de réseaux sociaux ou ailleurs. Sur internet, elle trouvait des discours qui sont entre deux très nuancés. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on a des discours dominants. Donc, évidemment, qu'à l'heure actuelle, ce débat-là, n'existe pas. Et en train de se mettre en place, de s'inscrire dans la réalité, parce qu'avant, il n'y avait pas de tribune possible. Ça n'avait pas suffisamment émergé dans le réel pour que les gens puissent en parler. Et ce qui m'ennuie un petit peu dans tout ça, c'est que il y a aussi cette réflexion, et là ça s'applique à toute l'industrie du jeu vidéo au sens large, pas seulement en industrie, c'est que par essence on ne peut pas se prendre la tête. Voilà, moi de par la présentation que en parlant du fait que je viens du podcast Je Game Moi Non Plus, c'est quelque chose dont on a d'emblée, on savait qu'on allait avoir affaire à ça. Ah non, non, c'est trop prise de tête, vous pouvez pas intellectualiser, vous pouvez pas faire de la masturbation intellectuelle sur le jeu vidéo. Comme s'il y avait toujours ce discours en permanence, que ce soit sur les questions de sexisme, de misogynie, etc., qui sont de toute façon des sujets qu'on revoit revenir. C'est un marronnier, hein, on revoit ça tous les ans, tous les 2-3 ans, au cinéma, au théâtre, dès qu'il y a un pseudo-scandale. On citait l'exemple de Bref, voilà, c'en est un exemple de plus, comme si on ne pouvait pas réfléchir sérieusement aux jeux vidéo, parce qu'il y a cette espèce de dichotomie à l'heure actuelle, soit c'est un divertissement, soit il y a cette espèce de petits groupes de savants fous qui sont en train d'essayer de nous faire penser. Et effectivement, faire penser, c'est pas toujours simple, ça induit de remettre en question. Et moi, mon hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais est-ce que c'est pas dû en grande partie au rapport à l'immersion et au rapport très intime qu'on a aux jeux vidéo? Ça n'excuse pas tout, ça ne justifie pas tout, mais il y a aussi les fonctionnements communautaires. Je pourrais encore ajouter sur le fait que le fonctionnement communautaire n'est pas toujours là que pour servir malheureusement la cause du jeu vidéo, en tenant certains discours.
Il faut rappeler que certaines personnes, du coup, quand tu te mets à critiquer leur jeu, c'est comme si tu les critiquais en direct et qu'ils ont du mal à faire ce distinguo entre l'œuvre vidéoludique et leur propre personne, ce qui n'aide pas, du coup, la discussion.
Tout à fait, il y a vraiment quelque chose d'intime, de viscéral, mais je persiste en disant que c'est alimenté par un discours. Je vais prendre un exemple. C'est pas du tout, pour tirer sur la caravane, parce qu'on a déjà parlé, c'est quelqu'un que j'apprécie, ça non plus c'est pas un syndrome bisounours, mais j'avais parlé avec lui d'un autre sujet à l'époque, mais Julien Chiez, donc que tout le monde connaît du site Gameblog, qui à un moment avait monté face à des contestations de joueurs à un mouvement, je crois, d'anti-blasitude du jeu vidéo et des ménestrels, voilà. En gros, c'était pour répondre avec de l'humour aux attaques qu'on lui faisait par rapport à sa pratique professionnelle et aux doubles casquettes qu'il pouvait parfois avoir. Bon, ça, je laisse de côté, c'est pas ce qui nous intéresse. Et puis l'idée que, voilà, les jeux vidéo, les gens sont trop blasés, ne s'extasient pas suffisamment. Mais le problème, c'est, voilà, si on est toujours dans quelque chose, c'est tout beau, il faut s'extasier en permanence, il faut toujours trouver quelque chose, c'est c'est l'opposé de la critique. C'est-à-dire, la critique pose justement la question de se dire, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et puis surtout ce qui nous intéresse, nous, s'il y a un discours idéologique derrière, quel effet ça peut bien avoir, tout ça. Et en tenant ce genre de discours, c'est pour ça que je disais que les communautés parfois peuvent permettre des choses géniales, hein, c'est pas parce que je suis de par chez vous sur Bagropoint que je le dis, mais voilà, il y a des mouvements qui se créent, il y a le Stunfest que nous connaissons tous, il y a plein d'événements de ce type-là, mais bon, il faut faire attention, je dirais que les mots sont importants, et utiliser des mots parfois, ce n'est pas seulement que des paroles en l'air, comme on dit, ça peut avoir un effet dans la réalité. Hein. Je vais encore faire un gros mot et promis, non pas je rends l'antenne, mais je fais une pause. Il y a ce qu'on appelle deux notions qui sont les termes, enfin le fait de parler, le parler étant comme un acte perlocutoire ou illocutoire. Perlocutoire, en gros, c'est c'est quelque chose qui va avec une réalisation qui va être effectif dans la réalité. Je donne un exemple tout bête, le mariage. Voilà, je vous déclare marié, femme, bref. L'illocutoire, ça va être qui va avoir seulement, avec d'énormes guillemets, un effet dans la réalité. Et en particulier, si c'est adressé à une personne à qui on adresse, ça peut être un compliment, un ordre, une injure. Et je trouve que dans le jeu de baston, justement, on est complètement là-dedans. Parce que trop de compliments, j'ai souvenir que dans le Riversal et certains commentaires ont critiqué justement Kaya du fait qu'elle retweetait en condamnant elle-même qu'elle était agacée qu'on ne la considère que pour son canon de beauté qui est le sien, enfin dans lequel elle rentrerait une certaine beauté qui plaira à certains hommes. Mais effectivement, ces compliments comme les personnes qui peuvent être insultants vont avoir un effet, tout comme dans une certaine manière le comportement et les propos que vont pouvoir tenir Kayane elle-même par rapport justement à ça. C'est une posture qu'elle donne, et en donnant cette posture, elle alimente un certain discours.
Alors tout à l'heure, tu disais que le dialogue s'instaurait enfin. Moi, de ma fenêtre, j'ai envie de dire que aujourd'hui, ce que je constate, c'est surtout qu'il y a des discours de part et d'autre qui sont plus des monologues, vraiment pour l'instant, qu'un dialogue. J'espère qu'on va aller vers ce que tu dis, qui est une ouverture. Et ce serait, de toute façon, c'est la suite logique des choses. Comment est-ce que toi, tu vois dans notre société en général, justement, l'évolution de notre communauté? Est-ce que tu la trouves du coup en avance? Est-ce que tu trouves qu'on a un train de retard par rapport à ce qui se fait à l'extérieur? Moi, j'ai bon espoir du coup que la génération vidéoludique ait justement ce train d'avance qui lui permet d'acquérir de manière un petit peu plus rapide les évolutions de notre société.
Alors, ça fait beaucoup de réponses potentielles. Comment je le vois? Alors, il y a une chose déjà, je serais peut-être, je nuancerais un tout petit peu l'idée que le jeu vidéo soit en avance sur ces types de réflexions-là.
Je pense pas que le jeu vidéo le soit. Hein. Vraiment, je parle de la communauté. Non, je pense que le jeu vidéo est vraiment le reflet parfait de ce qui se joue dans notre société de manière internationale.
Oui. Après, il y a l'idée du fait qu'il soit aussi au devant de la scène comme un des médias peut-être le plus récent et le plus relayé médiatiquement, comme le cinéma à l'époque dès qu'il y avait un scandale ou comme voilà. Donc je sais pas si c'est en avance. Je pense qu'il y a beaucoup d'éclairage médiatique qui peut donner cette illusion, ces débats et ces tribunes. Mais des fois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu soit des coups d'épée dans l'eau, soit des luttes contre des moulins. Les choses avancent, ça c'est clair. Je parlais tout à l'heure de Marion Cotville. Je renvoie vraiment les gens à des articles qu'elle a rédigés il y a peu. Si le titre me revient à l'esprit, oui, c'est Créateur de jeux vidéo et récit de vie, la formation d'une figure hégémonique, hein, pour les gens qui pourraient trouver ça sur le site de la Revue française des sciences de l'information et de la communication. Ça paraît très pompeux, mais c'est extrêmement lisible et c'est très ça éclaire sur beaucoup de choses. Après, pour répondre à ma place, comme tu disais de ce que tu vois de ta fenêtre, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, je n'ai pas de réponse et que je ne veux pas répondre, mais je pense être mal placé pour pouvoir y répondre. Ce que je pense, par contre, pouvoir faire dans mes actes et dans ma parole, là c'est pas non plus une espèce de méthode couée ou de méthode clé en main. Si un jour un comportement vous choque, de sexisme justement, vu que là on en parle assez essentiellement, n'hésitez pas à le dire. Moi, quand je vois des situations aussi surnaturelles que cette fameuse affaire de trash talking avec cette pro-gameuse,
Oui.
tu vas me rappeler. Son nom,
On va le retrouver.
on va le retrouver, on va le retrouver, la fatigue n'étant pas, et où la réponse du responsable du tournoi nous dit que le trash talking, je crois même à connotation sexiste, est partie intégrante des mœurs, non, non, et que les autres rigolent et laissent aller, non, non. Non, très sincèrement, je vais peut-être passer pour le père Lavertu ou on va dire le vieux con de service, mais là, non, il faut répondre. Non, c'est pas possible, on peut pas avoir ce type de propos-là, on peut pas voir une personne en pleurs attaquée dans son intégrité. Non, ça c'est pas possible, c'est de l'acharnement, c'est pas de la non-assistance en personne en danger, mais pas loin en termes d'intégrité. Je dirais morale. Donc voilà, c'est ça, je pense. En tout cas, moi, c'est relayer des gens qui en parlent très bien, c'est y réfléchir, c'est se poser des questions, c'est surtout pas réagir à, comment dire, à chaud ou dans quelque chose en miroir d'une agressivité pour une agressivité. Et voilà, donc quelque chose de relativement bienveillant, en ayant quand même cette attention de faire attention, de pas être dans un monde tout bisounours, de l'idée que les femmes sont plus visibles, donc ça va tout solutionner. Non, ça ira de pair avec un discours et de, je dirais, de nouvelles phases que ces mêmes femmes et ces mêmes hommes, si on prend la question de genre en règle générale, mais Je pense que là aussi, d'autres en parleront bien mieux que moi. C'est comme ça que les choses s'installeront et pas seulement par voilà, y a eu deux, trois femmes dans un tournoi de jeu de baston cette année, c'est fantastique, on a multiplié par trois le nombre de participations. Non, non, évidemment que non.
J'ai arrêté les jeux de combat, enfin, je joue pour le plaisir maintenant, mais je veux plus faire partie de la communauté, quoi. J'ai voulu faire ce que t'es en train de faire et je pense que t'as plus la capacité de le faire parce que t'es un homme et que toi on te traitera pas de féministe ou on te dira pas que tu veux séparer les filles et les garçons alors que moi on me l'a reproché plein de fois. Mais pour t'expliquer ma situation, en fait j'ai commencé à jouer à Street il y a 4 ou 5 ans et j'ai été décrétée une des meilleures joueuses de France. C'était pas difficile parce qu'on était vraiment pas beaucoup à cette époque. Mais en gros, moi mon but... j'ai commencé à jouer à Street complètement par hasard. J'ai voulu rassembler des filles pour leur montrer qu'elles n'étaient pas seules, en fait. Et le problème, c'est que toute la communauté s'est retournée contre moi, même les filles, qui soi-disant jouaient. Moi, je ne les voyais jamais jouer, en fait. J'avais créé un groupe sur Facebook, je crois, pour les filles. Et en fait, même celles qui m'ont rejoint m'ont critiqué parce qu'elles considéraient que je voulais séparer les filles des mecs, alors que tout ce que je voulais, c'était raboter des filles pour que justement il n'y ait plus cette séparation entre filles et mecs. Et ça, je me suis exprimée là-dessus des centaines de fois et ça n'a jamais marché. Enfin, à l'époque, j'étais même WDM et le patron de WDM m'a complètement saqué par rapport à ça aussi, alors que lui-même me demandait de faire un blog vis-à-vis des filles. Enfin, je crois que le fantasme des gens en général dans une communauté, c'est de contredire les autres. Au final, c'est même pas le fait que je sois soi-disant féministe qui m'a fait partir, c'est la communauté en soi. Mais je pense que dans n'importe quelle communauté, je me sentirais pareil. Après, au niveau des critiques sur les filles, c'est sûr, il y en a, et c'est ce que je voulais éviter. C'était pas séparer les filles des mecs que je voulais, c'était vraiment qu'on partage plus de choses ensemble et que...
C'était vraiment créer un pôle d'attraction.
Pour ça, il fallait... Voilà, mais pour ça, il fallait quand même qu'il y ait plus de filles. C'était une logique sensée. Je veux dire, pour 1000 mecs, t'as 10 filles, tu pourras jamais avoir une parité dans ces conditions-là, quoi. Et je peux t'assurer que j'ai donné beaucoup de choses, enfin, beaucoup de mon temps pour essayer de les trouver sur, parce qu'elles se cachent toujours derrière des pseudos, forcément. Et elles restent souvent, enfin, moi, je sais que je l'ai vécu comme ça et que j'étais pas la seule. On reste souvent entre gens qu'on connaît, en qui on a confiance, parce que dès que t'es sur le live et que tu commences à parler avec des mecs, d'avoir une fois de fille, tu t'en prends soit plein la gueule, soit plein de, enfin, d'avance un peu fortuite, quoi. Mmh. J'ai réussi à en rassembler, il y en avait très peu qui étaient de mon côté, d'autres qui ont préféré se liguer, en fait, je pense que c'est ça, elles ont préféré se liguer avec les hommes pour montrer qu'elles étaient comme les hommes. Elles ont rabaissé le projet que j'avais d'élargir justement le côté femme. Elles voulaient absolument être traitées comme des mecs, et apparemment, ça ne les dérangeait pas plus que ça d'être qu'avec des mecs. Moi, ça me dérangeait. C'est vraiment que je voulais que ça s'ouvre à vraiment faire évoluer les choses, au final. Et ça n'a jamais marché. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tout, quoi. J'ai quitté la communauté parce que je voyais plus aucun intérêt. Mais genre, même quand je retourne en tournoi pour le fun ou quoi, je n'utilise même plus de pseudo. Ne serait-ce qu'avoir un pseudo, pour moi, c'est un peu... C'est donner un peu trop d'importance pour moi, avoir un pseudo, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu améliorer la communauté. C'est parce que, de base, elle n'était pas au top pour nous, quoi. Mais je pense que sur Street 4, c'est un peu développé le machisme, entre guillemets. Parce que j'ai connu des gens qui jouaient à Tekken avec des filles qui étaient parfaitement acceptées. Mais là, pour le coup, elles étaient parfaitement... Mais à Street, moi, j'ai jamais eu ce ressenti-là. J'ai vraiment jamais eu ce ressenti-là, quoi.
Alors, t'as testé Street Cross Tekken pour savoir si du coup les filles pouvaient y jouer.
Dans ma vie, j'ai fait deux parties en tout. Donc, c'est même pas la peine, quoi.
N'oubliez pas que le sujet reste ouvert. À vous de jouer.